Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et bonjour Natacha.
Bonjour Elodie.
Bienvenue dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et on clôture cette saison radiophonique avec encore une fois des questionnements sur le recul des droits pour les femmes.
Eh bien oui, consacrer du temps, de l'énergie pour élever un enfant, décider d'être mère, d'être maman, eh bien il faut attendre quand c'est le bon moment. Interrompre un début de grossesse, c'est un droit qui a été arraché par le combat des femmes à la suite de tellement de mortes, tellement de condamnées, tellement d'emprisonnées. C'est un droit que l'on voit combattu et dans de nombreux pays dits démocratiques, un droit qui disparaît. En janvier, un département français ferme 7 centres de santé sexuelle dans la Drôme. Bien que le droit, ou du moins la liberté à l'intervention volontaire de grossesse soit aujourd'hui inscrit dans la Constitution qui régit notre pays, c'est quand même pas une garantie et que ce soit applicable de partout, ici, en France, en métropole et aussi dans les territoires et départements français.
Vous écoutez Radio B.
Alors vous le savez, on aime bien planter le décor avec un petit retour en arrière du côté de l'histoire pour poser les bases de nos réflexions. Et la spécialiste, c'est Michel. T'es même remontée jusqu'à l'Antiquité.
Exactement. Depuis l'Antiquité, dans le monde entier, les femmes ont toujours tenté de mettre fin aux grossesses non désirées avec toutes sortes de moyens. Des feuilles de saule, du fenouil, du persil, des graines de fougère, des objets tranchants, des coups, des pressions sur le ventre. Bref, c'était violent. La magie, les prières et les amulettes étaient aussi utilisées avec le succès qu'on imagine.
Mais alors, est-ce que cette question évolue un petit peu après cette période ?
Ça a évolué. Au Moyen-Âge, l'Inquisition écrase les droits des femmes et contrôle tout ce qui a un rapport avec la sexualité et la conception. L'avortement interdit est sévèrement réprimé, tant pour les femmes enceintes que pour les guérisseuses, les faiseuses d'anges et autres sorcières. Beaucoup de morts de femmes, mais aussi beaucoup d'infanticides.
Et ça progresse pas bien après non plus.
L'avortement va évoluer avec l'histoire des femmes. En 1810, sous l'ère napoléonienne, dans le code pénal, l'avortement est un crime passible de la cour d'assises, aussi bien pour l'avorté que pour l'avorteuse. En 1871, la Commune de Paris n'est pas non plus l'année de la femme. Voir dans la Commune de 1871, une révolution féministe serait allée bien vite en besogne. Les femmes n'ont pas le droit de vote, ni ne sont éligibles. Elles n'auront pas d'avantage. À l'issue de la semaine sanglante, pas de changement pour le droit à l'avortement.
Et c'est même très grave d'interrompre une grossesse.
Oui, on a des exemples. Toulon, 1890, la femme d'un officier de marine ainsi qu'une accoucheuse de la ville sont arrêtées à la suite d'un avortement clandestin. À l'époque, c'est un crime contre la patrie et un défi à la politique nataliste menée pour repeupler la France. Les familles de 10, 12 enfants ne sont pas rares. En 1913, la militante féministe Gabrielle Petit et la doctoresse Madeleine Pelletier, première femme diplômée en psychiatrie, rédigent une brochure sur le droit à l'avortement. Madeleine Pelletier sera d'ailleurs arrêtée en 1939 sur dénonciation pour crime d'avortement sur une adolescente violée par son frère. On associe encore contraception et déclin national.
Est-ce que les choses changent dans l'entre-deux-guerres ?
Pas vraiment. Après la Première Guerre mondiale, Henriette Altier, féministe et institutrice dans l'Hérault, est poursuivie en application de la loi du 31 juillet 1920 pour avoir abordé la question du contrôle des naissances est plaidée déjà pour une maternité choisie dans un rapport intitulé « La maternité, fonction sociale » paru en 1927. Elle sera finalement acquittée. En 1933, la militante Bertie Albrecht crée une revue qui a pour titre « Le problème sexuel ». Des députés socialistes, des femmes médecins, des journalistes, la Ligue des droits de l'homme ainsi que les francs-maçons réclament l'abrogation de la loi de 1920.
Ok, donc ça commence à bouger, mais ça s'accélère plutôt après 45.
Eh oui, 1949, enfin Simone de Beauvoir, qui fait paraître Le deuxième sexe, réquisitoire contre le naturalisme dominant et l'idée d'un éternel féminin qui dénonce l'enfermement des femmes dans la maternité et l'interdiction des moyens de contraception et de l'avortement. En 1955, le débat sur la contraception s'impose et France Observateur titre « 600 000 avortements valent-ils mieux que le contrôle des naissances » signé par Claude Sénéquel. En 1956, la gynécologue Marie-Andrée Lagroix-Vel-Allier fonde la maternité heureuse qui devient le mouvement français pour le planning familial. Dans les centres et associations locales, un peu partout en France, on distribue des contraceptifs et des informations sur les avortements.
Alors, on imagine que les années 60 accélèrent le mouvement ?
Marcelle Auclair, cofondatrice de Marie Claire, publie en 1962 un livre noir de l'avortement. En 65, la première chaîne de télévision diffuse à 19h l'interview de Claude Dantan-Lara qui a réalisé un film, Le journal d'une femme en blanc, qui est l'histoire d'un avortement. 1967, une première loi est proposée par le député gaulliste Lucien Neuwirth qui donne accès à la contraception, mais en liberté surveillée. Notamment, il faut aux mineurs le consentement d'un parent et toute propagande antinataliste ou toute publicité pour des contraceptifs reste interdite.
Et une date clé, c'est 1971.
Voilà, 1971, le manifeste des 343 qui paraît le 5 avril dans le Nouvel Observateur pour appeler à la légalisation de l'avortement en France. Dans cette liste, des Françaises signent le manifeste « Je me suis fait avorter », s'exposant ainsi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Catherine Deneuve, Agnès Varda, Marguerite Duras, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Delphine Sering ou encore Gisèle Halimi ont signé. Anne Zelensky crée le Mouvement pour la liberté de l'avortement, le MLA, qui organise une première manifestation publique en novembre sous des bannières comme « Nous sommes toutes des avortées ». L'avocate Gisèle Halimi crée aussi l'association « Choisir » avec trois priorités, l'éducation sexuelle et la contraception, l'abrogation de la loi de 1920 et la défense gratuite des femmes poursuivies pour avortement. À Bobigny, elle transforme le procès de Marie-Claire Chevalier qui a aidé sa fille Marie-Claire, âgée de 16 ans, violée par son petit ami, à avorter, en tribune pour la liberté de l'avortement. Ce procès va tout changer, les condamnations sont minimes et démontrent que la loi n'est pas applicable ni appliquée. La répression est inefficace, les femmes avortent.
Et les mouvements s'organisent.
En 1973, création du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui se bat pour la légalisation de l'IVG. Elle compte dans ses rangs des femmes, des médecins, des hommes, des étudiants et des enseignants. Le MLAC pratique des avortements clandestins et occupe pacifiquement des maternités pour échanger avec les mères sur la pilule, l'IVG, leurs droits. Dans le même temps, le MLF, Mouvement de libération des femmes, mène des actions destinées à éveiller les consciences. En 1974, des militantes du MLF appellent à une grève des femmes contre les tâches domestiques et sexuelles. Tous ces mouvements, toutes ces actions et une intense mobilisation créent un rapport de force favorable. Giscard d'Estaing, qui se présente comme un président moderne, crée le premier secrétariat à la condition féminine et place à sa tête la journaliste féministe Françoise Giroud. Simone Veil, ministre de la Santé, défend à l'Assemblée son projet devant les députés en novembre 1974. Elle le fait presque en s'excusant.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Suive, en 1974, le remboursement de la pilule contraceptive, la dépénalisation de l'avortement et son autorisation dans un délai de 10 semaines de grossesse. En 1975, le divorce par consentement mutuel. La loi sur l'IVG, dite loi Veil, est promulguée le 17 janvier 1975. Depuis, cette loi a évolué. D'abord avec des allongements de délai, 8 semaines, puis 10 semaines, 12 semaines en 2001 et finalement 14 semaines en 2024. La loi a été aussi assouplie avec l'introduction de la technique médicamenteuse et la possibilité de recourir à l'IVG en dehors des établissements de santé. En 1989, l'IVG médicamenteuse, moins invasive, permet l'interruption de grossesse par prise de médicaments, d'abord en hôpital, puis en 2001 en cabinet de ville, gynécologue ou généraliste. En 2016, un décret élargit encore aux sages-femmes, cette fois la pratique de l'IVG médicamenteuse, et récemment, en 2023, la possibilité de réaliser des avortements chirurgicaux sous conditions.
Alors aujourd'hui, on en est où dans tous les chiffres ?
Alors, la technique médicamenteuse représente 79% des IVG en 2023. Mais la technique chirurgicale doit rester possible pour des grossesses tardives. Attention, les médicaments abortifs sont produits par un unique groupe, Nordic Pharma, et une pénurie rendrait impossible l'accès à l'IVG. Autre remarque, les établissements privés ont quasiment abandonné la prise en charge, moins de 5% en 2023. Pratiquement toutes les IVG reposent sur l'hôpital public. C'est uniquement une question de fric, les recettes restant inférieures aux frais engagés malgré une revalorisation de la prise en charge par la Sécu en 2023, d'après les responsables des cliniques privées. Il n'est venu à personne l'idée de les obliger.
Et du côté des avancées récentes, on peut aussi citer la mise en place du site d'information ivg.gouv.fr. C'est un site qui est ouvert en 2013, donc il y a un tout petit peu plus de 10 ans, et qui offre enfin un service public d'information clair, fiable et objectif sur l'IVG. C'était une revendication forte et ancienne des associations féministes et pro-choix depuis de nombreuses années, car les sites anti-IVG, qui se présentent souvent comme des sites d'information neutres sur l'IVG, donc qui avant masqués, s'étaient multipliés sur Internet. Et ils étaient d'ailleurs souvent bien mieux référencés que les sites d'info pro-choix.
Enfin, le 8 mars 2024, la France est devenue le premier pays du monde à reconnaître dans sa constitution la liberté de recourir à l'avortement. Malgré cette protection symbolique forte, mais il ne faut pas oublier qu'une constitution, cela se change, les inégalités d'accès persistent selon les départements. Et des milliers de femmes doivent recourir à l'IVG en dehors de leur département de résidence.
Et c'est ce qui se passe dans la Drôme, récemment impactée, on en a parlé en introduction de l'émission, et c'est ce qui nous a un petit peu alertés.
Oui, en effet, là-bas, 7 centres de santé sexuelle, les anciens centres de planification familiale, sont fermés. Cette information circule depuis le début de l'année 2025 et nous avons discuté avec Sarah Bloch, une sage-femme qui y travaillait. Elle nous en dit plus sur cette aberration.
Lors d'une réunion pour une toute autre chose, notre secrétaire général du planning a appris que le département aller demander un vote pour la suppression de 7 centres de santé sexuelle, et pour le coup ceux des milieux ruraux, et la suppression de 20% des budgets alloués aux autres. L'argument initial, c'est que les coupes budgétaires venant du ministère amenaient le département à devoir de toute façon faire des choix et donc à rogner sur ce pôle-là. Après, en travaillant avec les élus de l'opposition, on a compris qu'en fait, c'était de faux arguments. Parce qu'en fait, l'économie, nous, en l'occurrence, qui pourrait être faite... elle est minime par rapport aux dépenses. Et par ailleurs, il semblerait que le département de la Drôme soit pas touché, soit pas concerné par les coupes budgétaires que le ministère impose au-dessus. Donc on a compris qu'en fait, c'était politique. Alors nous, ça a vraiment été un électrochoc. On s'attendait à ce que potentiellement il puisse y avoir des baisses de subventions, mais pas du tout à cette hauteur-là. Nous, c'est extrêmement problématique au sein du planning. Les réactions, elles ont été fortes au sein des salariés et puis aussi au sein des bénévoles. On s'est très vite mis en contact avec les salariés des centres de santé sexuelle départementaux, ce qui allait complètement fermer, parce qu'en fait, ces centres, ils fonctionnaient pas mal avec des contractuels. Et donc, en fait, le département va avoir très très peu de gens à redispatcher derrière. Ça met simplement des gens sur le carreau. Donc, pareil, ça a été très compliqué. Humainement, c'est une catastrophe. Évidemment, en plus, c'est beaucoup des femmes qui sont sur ces postes-là. Et donc, on s'est retrouvés d'abord une première fois à se mobiliser début février, tous ensemble, au département, au conseil général, devant le site du département, pour manifester, pour essayer de. Voilà, de rentrer en dialogue, de comprendre. On a tenté d'interpeller Marie-Pierre Mouton, qui est donc à l'origine de cette décision, qui ne nous a jamais reçus. Et parallèlement à ça, on a bénéficié d'une belle mobilisation citoyenne d'un collectif qui s'appelle souvent les centres de santé sexuelle, qui part principalement de la vallée de la Drôme entre Die et Crest, mais en fait qui s'est bien élargi jusque dans le Royans. Et qui s'est animé, a mis en place, dessiné des bas à partir du film qui s'appelle Annie Colère, où on a pu aller dans les villages, expliquer ce que c'était que les centres de santé sexuelle, notre fonction, le travail qui y était fait, le service, voilà, normalement public qui devait être rendu à la population et les conséquences en fait de ces décisions-là. Et on avait pour espoir que le vote qui était donc au 14 avril ne passe pas. Voilà, simplement, malgré toutes nos mobilisations, c'est quand même passé.
Alors, les conséquences de ces fermetures, le planning familial se retrouve avec plus de demandes et moins d'argent, moins 20%, c'est ce que nous disait Sarah. Et aussi, tout le travail de prévention et d'éducation fait dans les classes à tous les niveaux. Ils travaillaient même que ça soit de la primaire jusqu'au lycée. Et ça peut plus se faire. Et en tout cas, plus se faire par un service public, parce qu'il y a des associations qui sont toutes prêtes pour intervenir et des associations de toute obédience d'ailleurs. L'hôpital de Valence ne pourra pas répondre à toutes les demandes. C'est le seul hôpital qui peut faire les IVG. Et les détails pour les prises en charge, les délais, pardon, pour les prises en charge des IVG risquent de s'allonger, ce qui à terme peut mettre en péril une possibilité d'IVG.
Les personnes vont devoir faire de la route pour avoir accès à leurs soins de santé sexuelle. Et l'absurdité que c'est quand on se rend compte que le public, c'est aussi des mineurs, les gens qui ne sont pas véhiculés. La solution, c'est de passer par les libéraux, d'aller voir les pharmaciens pour demander des préservatifs, des contraceptions d'urgence, d'aller voir des médecins généralistes qui, on le sait, sont très 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 nombreux et très 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 accessibles. Les sages-femmes éventuellement pour les IVG et les contraceptions. Voilà, après, on a eu beau essayer d'expliciter à Mme Mouton que dans les milieux ruraux, l'anonymat, la gratuité, l'accessibilité, et que ces solutions proposées étaient lunaires, pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que ça. Pour nous, on sait que c'est une véritable catastrophe, c'est un recul complet par rapport à l'accès aux droits. Notre grosse déception, c'est quand même important de faire savoir que l'argument économique de ce choix-là, il est complètement erroné, que c'est un mensonge, qu'on est sur un recul des droits et des accès à la santé sexuelle pour toutes et tous. Hein, et voilà, et que nous on reste mobilisés, que malheureusement on risque de faire jurisprudence dans la Drôme parce qu'il y a quand même d'autres départements là qui vont rapidement être touchés. Nous on lâche pas, là c'est certain que là on lâche pas et qu'on va faire savoir en fait que c'est un vrai recul.
Alors, peut-être pour donner quelques précisions par rapport à ce qui est dit, quand on parle du centre de santé sexuelle, on parle des anciens centres de planification familiale qui sont gérés par les départements. Et quand on parle du planning, c'est l'association de 1901 qui est indépendante des pouvoirs publics.
Alors dans l'Ain, le centre de santé sexuelle est lui aussi porté par le département. D'ailleurs, Joël, tu t'es rendue dans leurs locaux au Pont des Chèvres à Bourg-en-Bresse.
Oui, c'est Véronique Pro qui est médecin coordinatrice du centre qui nous répond. Elle dirige le centre de santé sexuelle de Bourg qui se situe rue du Pont des Chèvres, comme tu le dis. Elle nous fait une présentation des activités du centre et nous redonne la mission de ce service départemental. En fait, à qui s'adresse ce service public ?
Aux personnes mineures, majeures, hommes, femmes, du coup de façon anonyme et gratuite, les patients ou patientes peuvent venir nous voir pour échanger autour de la santé sexuelle, de tout ce qui a trait à la contraception, au suivi gynécologique, au dépistage des infections sexuellement transmissibles suite à une prise de risque ou pas. On échange aussi autour beaucoup de la relation intrafamiliale et voilà, et dans les couples on essaye de dépister aussi tout ce qui a trait aux violences intrafamiliales ou violences conjugales, et on accompagne du coup ces personnes-là. C'est vraiment un champ très large, la santé sexuelle. Chacun des centres, il y a médecin et ou sage-femme, psychologue et ou conseillère conjugale et familiale et infirmière. On peut mettre à disposition des patientes, on peut distribuer par exemple voilà, certains contraceptifs, certains traitements pour les patients qui ne sont pas assurés sociaux. Ça aussi, c'est du coup financé par le département. Nous, ici, au centre de santé sexuelle, on ne réalise pas d'IVG. On peut faire par contre le premier entretien. On explique quelles sont les différentes méthodes et on oriente les patientes en fonction... En fonction de l'âge de la grossesse et de leur choix, soit vers le libéral, soit vers le centre d'orthogénie hospitalier. Et du coup, on peut aussi réaliser au sein du centre l'entretien psychosocial, donc avec notre collègue conseillère conjugale et familiale. Cet entretien, il est obligatoire pour les jeunes femmes mineures et il est proposé à toutes. Donc voilà, tout le monde peut y avoir accès. Les mineurs, du coup, viennent ici en consultation ou en entretien avec mes collègues infirmières ou conseillères conjugales et familiales. Elles n'ont pas besoin d'être accompagnées par un majeur, sauf dans le cas de l'IVG, quand elles confirment leur demande. Mais pour un premier contact, elles peuvent tout à fait venir seules. Dans le cadre des séances du coup d'éducation à la vie relationnelle et affective dans les établissements scolaires, on intervient dans beaucoup d'établissements scolaires du territoire pour informer sur nos missions, présenter l'équipe, expliquer comment les patients ou patientes peuvent venir à nous. Et puis ensuite, il y a du coup un site internet, le site 1.fr, où elles ont toutes les infos avec les différents sites du département. Donc au total, il y a 8 centres de santé sexuelle départementaux et 2 hospitaliers. Donc ça couvre une large partie du territoire. Et puis du coup il y a des publications régulièrement sur Facebook aussi sur les missions des centres.
Après cette présentation de Véronique Pro, merci à elle, on voit combien ces centres sont importants, leur mission large et combien leur suppression et le recul d'un service social qui est ouvert à tous. Alors, on nous parle de médecine de ville. Coralie Guichard est médecin généraliste dans l'Ain. Nous nous étions rencontrés il y a un peu plus de 5 ans. À ce moment, elle faisait partie de l'équipe du centre orthogénique de Fléria, où elle pratiquait des IVG. Je lui demande si la situation a évolué et de nous parler des IVG qui se font en libéral.
Alors, qu'est-ce qui a changé ? Les gros changements, ça a été surtout que l'IVG a été porté à 16 semaines d'aménorrhée contre 14. Donc le délai a été repoussé de 15 jours pour l'IVG. Les techniques n'ont pas fondamentalement changé. Ce qui s'est développé depuis le Covid, c'est plutôt les IVG en ville. En fait, ce qu'on appelle en ville, c'est-à-dire faites par soit des sages-femmes libérales, soit des médecins généralistes libéraux qui sont conventionnés avec l'hôpital. N'importe qui ne peut pas faire d'IVG. Il faut avoir une convention et une certaine connaissance pour pouvoir se lancer. Alors du coup, le temps de réflexion qui était de 7 jours à l'époque a été abrogé. Il n'y a plus de temps de réflexion, sauf pour les mineurs. À partir du moment où en fait une patiente voit une conseillère conjugale, ce qui n'est pas obligatoire, c'est obligatoire pour les mineurs, mais pas obligatoire pour les majeurs, normalement on a un délai de 48 heures de réflexion. Voilà. Il faut qu'elle ait vu deux professionnels ou le même professionnel à deux reprises pour maintenir, mais il n'y a plus ce délai de 7 jours qui était qui nous bloquait beaucoup en fait. Alors, les mineurs, c'est anonyme, puisque moi, on a des codes qu'on peut mettre, des codes que la Sécurité sociale nous fournit. Donc, c'est totalement anonyme, c'est-à-dire que leur nom ne figure nulle part. Il faut qu'elles soient accompagnées de n'importe quel majeur, un parent ou pas un parent, en fait. Ça peut être un ami, ça peut être... voilà. La seule chose qui peut être problématique en libéral, c'est que, comme je vous l'ai dit, pour la mineure, il faut qu'on ait un entretien avec soit une conseillère conjugale, soit une psychologue. Donc, nous, la chance qu'on a ici, c'est qu'on en a deux. Donc voilà, il faut juste qu'en fait elle puisse régler une partie de la somme, ce qui n'est pas pris en charge, alors que c'est pris en charge sur l'établissement hospitalier, puisqu'il y a une conseillère conjugale qui est présente pour les mineurs. Voilà, c'est ce qui est limitatif pour les mineurs en libéral, c'est ce côté psychologue ou conseillère conjugale, quoi. Quand on est mineur, c'est moins impressionnant que d'aller à l'hôpital. Moi, je fais des mineurs aussi, hein. Ça pose pas de souci, et des mineurs qui sont parfois mes patientes, et finalement, ça leur pose pas forcément problème. Le problème de la... Comme elles viennent tout le temps avec un majeur, en général, la personne majeure est véhiculée, donc c'est pas tant le problème du transport, c'est vraiment le problème de cet accès à la conseillère ou psychologue, donc...
Alors, un petit peu d'explication. Comment ça se passe quand on va chez un médecin ou une sage-femme pour une IVG? Coralie nous explique dans le détail.
Donc, il y a un premier comprimé qui sert en quelque sorte à stopper un petit peu l'évolution de la grossesse pour pas qu'elle se... voilà, qui prépare l'utérus. Et le deuxième comprimé, lui, il sert à provoquer l'expulsion. En fait, le deuxième, c'est vraiment le deuxième qui va entraîner les saignements, qui va entraîner des contractions d'utérus pour expulser, en fait, le matériel de la grossesse. Pour pouvoir faire à domicile, il y a quand même des prérequis, d'accord? Donc, il faut que la patiente, elle soit à moins d'une heure de l'hôpital avec lequel le professionnel a une convention. Donc, moi, en l'occurrence, c'est l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Il faut qu'elle ne soit pas toute seule lors de la prise du deuxième comprimé le jour où ça saigne par rapport au risque hémorragique. Alors, c'est pas non plus des hémorragies cataclysmiques, mais quand ça saigne beaucoup, on peut par contre voir des malaises vagaux. Donc, si la patiente est toute seule et puis inconsciente, c'est plus problématique. C'est très rare, mais bon, on met des garde-fous. Il faut aussi que la patiente ait une bonne compréhension, un bon niveau de compréhension des consignes. C'est-à-dire que si elle n'est pas en mesure, pour X ou Y raison, soit du fait de troubles cognitifs, soit du fait d'une barrière de la langue, on ne peut pas le faire. Donc voilà, il y a quand même des prérequis pour pouvoir le faire à domicile.
Alors, pour terminer ces entretiens, nous discutions avec Coralie des a priori. Elle nous disait que les femmes qui ont recours à l'IVG ne sont pas, comme on pense, des jeunes filles qui auraient la tête en l'air, mais que ce sont des femmes, en général, qui ont entre 30 et 20 ans, qui savent ce que c'est que la contraception, et bon, il y a un moment, il y a eu un problème. Alors, après tous ces entretiens, moi, ça me fait poser la question sur ces IVG en libéral. Ça risque quand même de supprimer un service public qui est ouvert à tous avec des conseils et de l'écoute. Quand on est seul chez soi, on n'est pas pareil qu'à l'hôpital. Et on parle dans les brochures sur l'IVG qui viennent d'être éditées par le ministère de la Santé de consultations en téléconsultation. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu froid dans le dos. Voilà.
On reviendra dessus tout à l'heure. Et avec nous en studio, Célia. Célia, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu as vécu une IVG il y a quelques années. Dans la première partie de cette émission, on est resté très technique avec plein de chiffres, plein de données très descriptives. Il semblait que c'était aussi important de faire venir au micro des femmes qui ont pu vivre une IVG parce que finalement, rien n'est anodin autour de cet acte. Alors c'est à la fois politique, mais c'est quand même aussi un geste médical qui peut avoir des conséquences. Et même parfois, il y a peut-être encore un tabou, hein, c'est ce que tu disais, Joël. Comment toi, tu l'as vécu, ce moment ?
Moi, c'était en 2018, donc ça fait quand même un moment, enfin, j'ai bien évolué depuis. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être accompagnée à l'époque par mon copain. Je dis beaucoup de chance parce que justement, que ce soit justement au CCS du Pont des Chèvres ou au Centre Orthogénie, m'ont tous fait remarquer que c'était incroyable que je sois accompagnée, qu'ils viennent avec moi pendant le rendez-vous, qu'ils viennent avec moi au rendez-vous psy aussi. Enfin, ça me paraissait normal, mais en fait, voilà, apparemment pas du tout. Et même pour des couples mariés, c'est rare des fois que le mari prenne le temps d'accompagner sa femme. Voilà, j'ai eu cette chance-là, même si c'est un scandale que ce soit encore une chance, mais voilà. Et effectivement, ouais, il y a un truc un peu tabou de... Bah déjà, tu te retrouves au même service que les femmes qui cherchent à avoir un bébé. Enfin, c'était quand même là dans la même salle d'attente. Donc, il y a un truc un peu gênant de ça se regarde le bide. Donc, ouais, il y a quand même encore... même si moi, je suis éduquée, que je suis féministe, donc je sais que c'est mon corps, mon choix, j'ai quand même à l'époque... Maintenant, c'est facile pour moi et ça a été digéré. Mais à l'époque, il y avait un truc tabou de vraiment... J'en ai parlé qu'une fois que ça avait été terminé, réglé, où je savais qu'on ne pouvait plus essayer de me faire changer d'avis.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Parce que donc, tu t'es rendue au centre de santé sexuelle du Pont des Chèvres?
C'est ça. Je suis allée au centre de santé sexuelle du Pont des Chèvres qui ont vérifié un peu la datation. Parce que du coup, j'avais fait un test de grossesse en pipi, là. Je sais pas quand. Donc, elles ont vérifié la datation et puis elles m'ont aidée du coup, à savoir où aller, prendre rendez-vous avec le centre d'orthogénie de Fléria.
Quand on a échangé pour préparer l'émission, tu m'as dit que ça s'est plutôt bien passé, ça s'est plutôt bien déroulé, dans le sens où tu as eu les infos, tu t'es sentie bien prise en charge.
Ouais, je suis tombée que sur des femmes, je les ai toutes trouvées, justement, moi j'avais super peur parce que j'étais pas une minette de 16 ans, j'étais éduquée, et justement, je me suis dit, encore moins que les autres, j'ai entre guillemets le droit à l'erreur, quoi. Et en fait, elles n'ont pas du tout été jugeantes. Elles m'ont aussi accompagnée dans trouver des solutions après pour ma contraception, parce que j'avais arrêté toute contraception, pilule, etc., parce que j'avais trop d'effets secondaires. Donc elles m'ont aidée aussi à trouver des choses qui me convenaient. Surtout au CCS, elles ont été super. Et les sages-femmes aussi au centre orthogénie, pareil, elles m'ont laissé. Enfin, au départ, il y avait le débat de est-ce qu'il a le droit de venir avec moi jusque dans la salle. Elle disait, c'est à lui de voir, c'est à vous de voir, pardon. Mmh. Et si vous êtes d'accord que ce soit là, mais si vous avez besoin de lui. J'ai été bien accompagnée. Ouais.
Mais est-ce que tu as eu un suivi ensuite? Coralie Guichard l'a un peu évoqué, puis on en a un peu parlé, nous, en préparant l'émission. C'était une IVG médicamenteuse.
Ouais, à la maison, du coup.
Elle dit quand même que la prise du deuxième médicament peut être quand même assez violente. Est-ce qu'il y a un moment où tu revois des médecins après ce passage-là?
Non, j'en ai pas le souvenir du tout. Et effectivement, comme elle le dit, on te dit bien de faire attention, d'être avec quelqu'un. Donc là, elle l'a dit dans l'interview que c'était rare en fait qu'il se passe quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est quand même, t'es pas dans une période hyper simple psychologiquement. Et du coup, ce truc-là de faut être avec quelqu'un au cas où il y a une hémorragie, etc., déjà, c'est pas forcément facile à mettre en place. Moi, j'avais heureusement une coloc qui m'avait accompagnée ce jour-là. Mais pour le coup, mon copain travaillait, j'étais... Donc ouais, je me dis que pour d'autres personnes, ça doit pas forcément être évident de trouver quelqu'un pour pouvoir être chez soi. En plus, il faut que ce soit encore une fois quelqu'un avec qui on est en confiance et on n'a pas ce tabou. Mais après, non, j'ai pas le souvenir, sauf erreur de ma part, que t'aies quelques rendez-vous. Ils te disent que si ça saigne encore tant de temps, puis t'y comptes en serviette hygiénique, au bout de 5, cours à l'hôpital. Mais non, j'ai pas le souvenir qu'après du tout, t'aies de rendez-vous.
Alors, lors de notre entretien, Coralie disait qu'elle donnait son numéro de téléphone personnel à toutes les personnes. Voilà, donc s'il y a quelque chose, elle était présente, elle était là. Et qu'après il y avait un autre rendez-vous. Okay. Alors après, ça dépend vraiment des médecins.
Non, mais peut-être que je ne m'en suis pas souvenue aussi, c'est 8 ans. Donc.
Du coup, là, tu as écouté le début de l'émission avec nous. Tu as participé avec ton écoute attentive. Selon toi, qu'est-ce qui devrait être amélioré pour que les femmes puissent se saisir de ce droit sans ce tabou, justement?
Je pense que des choses comme vous faites là, d'expliquer, et puis de voir qu'il y a tous les profils et... Et typiquement, pas fermer les centres de santé sexuelle, en fait, parce que sans elle, vraiment, pour le coup, je sais pas si j'aurais réussi sans cette étape centre de santé sexuelle, aller directement au service orthogénie de Fléria, quoi. Ça aurait été vachement plus compliqué. Et si ça allait pour moi, je me dis que pour un tas d'autres femmes avec des profils différents, ça doit l'être encore plus.
Justement, le fait de cette hésitation, ça fait passer le temps. Et le temps, eh ben, les semaines avancent, quoi. C'est là où il y a un gros, gros problème.
Eh bien, en tout cas, merci à toi, Célia, pour ton récit. Il est important d'observer les évolutions autour de ce droit. D'ailleurs, dans la Somme, à Amiens, des femmes se sont organisées.
Oui, et elles ont obtenu des avancées importantes. Alors, tout commence en 2023 avec un questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux par le planning familial d'Amiens, un jeune planning familial qui a été créé il y a quelques années avant. Et donc, le planning familial d'Amiens lance un questionnaire donc, sur les réseaux sociaux pour identifier les éventuelles difficultés d'accès concrètes à l'IVG dans le territoire. Questionnaire auquel une centaine de femmes ont répondu. Et puis ensuite, ce travail d'enquête s'approfondit et s'élargit à l'ensemble de la région, sous l'impulsion des associations du planning familial des Hauts-de-France. C'est au final un véritable travail de fond qui a permis de mettre à jour des difficultés concrètes, indiscutables, dans l'accès à l'IVG.
Bon, par exemple, la question, si on veut avorter à Hirson, il n'y a pas de structure, comment on fait? Donc, les deux centres hospitaliers les plus proches sont dans l'Aisne, Saint-Quentin et Laon. Comment on y va? Par exemple, si on n'a pas de moyens, on n'a pas de voiture, parce que ça va quand même. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes précaires et il y a de grandes difficultés. Donc, par exemple, en partant d'Hirson pour aller à Saint-Quentin, elles doivent prendre un car qui met 2 heures et qui, au mois d'août, ne passe qu'une fois le mercredi et 2 fois le vendredi. Ce que je veux dire, je ne vais pas raconter tout ça en détail, mais là, c'est du concret, du palpable. Ce n'est pas juste, oui, on dit, il y a des difficultés d'accès.
Et oui, donc Isabelle, que nous venons d'entendre, est militante au planning familial d'Amiens et elle nous donne un exemple concret. Alors, les villes ne nous parlent pas puisque c'est dans la Somme, mais un exemple qui nous montre combien la constitutionnalisation de l'IVG, c'est bien, mais ça ne peut pas suffire à garantir ce droit. Encore faut-il que les femmes puissent effectivement avoir accès à une IVG lorsqu'elles en ont besoin. Et avoir accès à une IVG, c'est d'abord, nous explique Isabelle, avoir accès à une information complète et fiable. Qui pratique des IVG dans le territoire? Quelles IVG? Où les trouver? Et comment les contacter? Bref, disposer d'un listing de professionnels de santé et des lieux où on peut pratiquer une IVG. Et grâce à la mobilisation des plannings familiales des Hauts-de-France, notamment, un répertoire régional actualisé est actuellement en cours de finalisation dans la région. Autre enjeu souligné par Isabelle, autre enjeu de lutte, la question du conventionnement, Joël l'évoquait tout à l'heure dans l'un des entretiens, c'était...
Avec Coralie Guichard.
Ah oui, avec Coralie Guichard, c'est ça. La question du conventionnement des professionnels de santé qui exercent en ville, en libéral. Aujourd'hui, pour qu'un professionnel de santé type médecin, sage-femme ou un centre de santé sexuelle puisse être autorisé à pratiquer des IVG médicamenteuses en dehors des centres hospitaliers, il faut l'autorisation d'un établissement de santé, un conventionnement donc. Et parfois, les conditions à remplir pour obtenir ce conventionnement sont un véritable frein, un exemple.
Mais il y a certains centres, notamment par exemple le CHU d'Amiens, qui demandent des trucs improbables. Par exemple, à mon cabinet où j'étais, la sage-femme qui est super, qui est au planning aussi maintenant, mais ils lui ont collé 10 demi-journées de stage. Comment tu fais quand tu es en libéral? C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas ta vie. Tu ne peux pas te barrer comme ça, 10 ou 15 demi-journées, ou alors tu prends sur tes vacances, tu vois, et ce n'est pas dans la loi en plus.
Voilà un exemple concret de difficulté pour le conventionnement des professionnels de santé autorisés à pratiquer des IVG. Troisième difficulté soulignée par Isabelle, la loi prévoit que les femmes puissent choisir, théoriquement, à n'importe quel moment de la grossesse, c'est-à-dire quel que soit le nombre de semaines, les femmes devraient pouvoir choisir entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG instrumentale. Or, dans la pratique, on leur laisse rarement le choix. Donc, elle souligne, Isabelle, que c'est un droit qui est très peu effectif pour des raisons pratiques et budgétaires notamment. Quatrième difficulté, quatrième défi, celui de la prise en charge de la réalisation concrète des avortements après 14 semaines de grossesse ou 16 semaines d'aménorrhée. On l'a entendu tout à l'heure, depuis la loi Galliot de 2022, on peut légalement avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse. Là encore, dans la pratique, c'est un droit pas toujours effectif. Dans les Hauts-de-France, Isabelle relève que seuls 4 centres hospitaliers sur les 30 centres qui pratiquent des IVG réalisent les IVG après la 12e semaine de grossesse, donc entre 12 et 14. Et enfin, cinquième difficulté, non des moindres, la fameuse clause de conscience qui permet toujours aux professionnels de santé de refuser de pratiquer les IVG. Isabelle nous explique ainsi que ces dernières années, au CHU d'Amiens, de plus en plus de médecins, de plus en plus d'internes ont fait valoir cette clause pour des raisons idéologiques. Les raisons de se mobiliser restent donc nombreuses à Amiens, dans la Somme, dans les Hauts-de-France, mais également ici et ailleurs.
À noter sur les réseaux sociaux un appel du planning familial et des chiffres édifiants. 100% des subventions coupées dans les Pays de la Loire, 10% de baisse de subventions dans le Loiret, 9 associations du planning familial sur le territoire concerné par des baisses de subventions.
Et voici ce que dit le planning familial. Ce qui se joue ici, ce ne sont pas de simples questions budgétaires, mais bien des choix politiques. Réduire les financements du planning familial, c'est s'attaquer à l'accès à la contraception, à l'avortement, à la prévention des IST, à l'éducation à la sexualité, à la prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles.
Alors si vous souhaitez aider cette association, une grande campagne d'appel aux dons est lancée. Rendez-vous sur le site internet du planning familial.
Cette vigilance est importante, hein, parce que tout peut basculer très très vite. On pense à la situation des États-Unis. Petit tour d'horizon de ce qui se passe chez eux en ce moment. Bascule en juin 2022 lorsque la Cour suprême revient sur un droit constitutionnel garanti par l'arrêt Roe versus Wade, le droit à l'avortement. À noter que ce droit avait été acquis en 1973, donc un petit peu avant le droit français. C'est l'arrêt Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, donc qui statue en 2022 que le droit à l'avortement n'est pas constitutionnel et ne peut donc pas être imposé aux États. Donc en gros, chaque État est désormais libre de statuer comme il le souhaite.
Et alors ça marche ?
Eh bah ouais, hein, dans les 30 jours suivant la décision, 43 cliniques dans 11 États ont cessé de fournir des soins d'avortement. 100 jours après la décision, ce nombre est passé à 66 dans 15 États et aucun établissement pratiquant l'avortement n'était plus en activité dans les 14 États appliquant une interdiction totale de l'avortement. En parallèle de ça, dans les États qui autorisent et pratiquent encore l'avortement, des retours en arrière. Par exemple, en Floride, le seuil limite pour avorter est abaissé à 6 semaines de grossesse. Pour contrer ça, les femmes parcourent des kilomètres pour avorter, se mettent en danger, puisent dans leurs économies. Et des nouvelles pratiques arrivent, hein, on l'a évoqué au cours de l'émission. Quand il n'y a plus un accueil physique, il y a la télémédecine. Aux USA, c'est un avortement sur 5 qui est réalisé par le biais de cliniques virtuelles.
Et alors, ça pourrait être une bonne chose, hein ?
Bah, on pourrait se dire que finalement, l'IVG médicamenteuse permet peut-être de pallier à ces attaques contre l'avortement, puisque pour le coup, on ne va plus devant ces centres avec des militants qui nous empêchent d'entrer. Alors attention, accrochez-vous, hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, les anti-IVG attaque le supposé lien entre l'industrie pharmacologique et l'avortement en mettant en avant une supposée dangerosité de la molécule contenue dans les médicaments abortifs. Donc en gros, c'est la santé des femmes à géométrie variable, vous voyez. En début de mois, Trump est même revenu là, sur l'obligation d'avortement en cas d'urgence vitale pour la femme enceinte, indépendamment des lois de l'État. Donc en gros, dans la première puissance mondiale, des femmes enceintes vont mourir aux portes des hôpitaux. Hein ? Aujourd'hui, 21 États sur 50 ont interdit l'avortement avec toutes les conséquences qu'on a pu aborder auparavant. Des inégalités d'accès entre celles qui pourront parcourir des kilomètres et se payer leur avortement. Des situations d'avortement clandestin dangereuses. Le tout saupoudré de campagnes de désinformation massive. Il est encore et toujours nécessaire de lutter. On salue d'ailleurs la loi adoptée par l'État de New York qui vise à protéger les médecins qui prescrivent à distance et envoient ces médicaments à des patientes vivant dans des états où l'IVG est interdite.
Alors, une autre inquiétude, hein, encore plus proche de nous, et ça se passe au Royaume-Uni.
Ouais, c'est un article de France 24 qui nous raconte ça. La police autorisée à traquer les IVG illégales en fouillant dans les données personnelles de femmes suspectées d'avoir enfreint la loi. Alors déjà, on va repartir sur la loi sur l'IVG au Royaume-Uni. Et bien là-bas, le délai légal est plus long qu'en France, hein, on est à 24 semaines, mais conditionné à l'accord de deux médecins. Et l'IVG doit se passer dans une clinique conventionnée. On est toujours sur ces questions de conventionnement. Le recours à un avortement en dehors de ces conditions est considéré comme illégal. Et il apparaît que ces dernières années, le nombre de poursuites contre des femmes a augmenté et a alerté les autorités. Les professionnels de santé y voient une façon de contrôler les femmes. La médecin Louise McCudden explique.
Ce sont les femmes déjà marginalisées, migrantes, sans abri, victimes de violences ou peu informées de leurs droits, qui seront les plus exposées à ces nouvelles directives. Ce sont celles qui, souvent, redoutent déjà la police ou ne lui font pas confiance. Cette politique ne fera qu'exacerber le problème.
Alors, la petite touche d'espoir, en parallèle de ce virage répressif, des députés travaillistes luttent pour modifier la loi et carrément dépénaliser l'avortement, une étape qu'ils jugent nécessaire au regard des années sombres qui s'annoncent. À noter que l'Irlande a dépénalisé l'avortement en 2019.
Et si on regarde ailleurs ?
Eh bien, à l'échelle mondiale, 40% des femmes en âge d'avoir des enfants vivent dans un pays où l'avortement est interdit ou limité. Pour autant, Amnesty International nous rappelle que les femmes ont recours à l'avortement dans les mêmes proportions, que ce soit interdit ou pas. 37 sur 1000 lorsque la loi l'interdit, 34 sur 1000 lorsqu'elle l'autorise. Donc on voit bien que ça ne sert à rien, en fait, cette répression. Et la seule énorme différence, celle qui nous mobilise aujourd'hui, c'est le danger pour la santé des femmes. Les IVG clandestines sont la troisième cause de mortalité maternelle dans le monde. Donc un autre droit à protéger et défendre. Et puis, du coup, pour que vous en sachiez encore plus après cette émission, on s'est dit que c'était important d'en parler autour de vous, d'échanger sur ce sujet. Et nous, on aime bien vous conseiller des livres, des films, des podcasts. D'ailleurs, Natacha, tu as des suggestions.
Deux bandes dessinées récentes que je conseille vivement. La première, c'est un peu un pas de côté par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Elle a pour titre « Outre-mer, le scandale des avortements forcés à La Réunion ». Et elle a été publiée en 2024 aux éditions Vuibert. Nous sommes au début des années 70, et tandis qu'en métropole, des femmes luttent pour obtenir le droit à l'avortement sur l'île de La Réunion, d'autres femmes, majoritairement pauvres et noires, sont avortées et stérilisées sans leur consentement. Donc c'est de ce scandale oublié dont parle cette BD qui a été dessiné par l'illustratrice Anjalé et scénarisé par Sophie Adriansen. Anjalé nous a accordé un entretien que vous pourrez écouter lors de notre prochaine émission à la rentrée de septembre. C'est très très intéressant à ne pas manquer. La deuxième bande dessinée, c'est Bobigny 1972 aux éditions Glénat, également sortie en 2024. La BD Bobigny 72 raconte les procès historiques de Marie-Claire Chevalier, 17 ans, poursuivie pour avoir avorté suite à un viol, Michel l'évoquait tout à l'heure, et le procès de sa mère et des femmes qui l'ont aidé à réaliser cet avortement. C'est, comme l'évoquait Michel, un procès historique. L'avocat de Marie-Claire et de sa mère, c'est Gisèle Halimi, et elle a décidé de faire de ces procès une tribune pour le droit à l'avortement. La BD rend très accessible ce moment important de l'histoire de la lutte pour l'IVG en France, à mettre entre toutes les mains à partir de 13 ans.
Et puis à lire sur Mediapart une série de reportages « Traverser les frontières pour avorter », où l'on apprend notamment que près de 5000 Françaises ont traversé les frontières pour avorter en Espagne ou aux Pays-Bas. Et puis à écouter sur France Culture, magnifique et puissante série documentaire LSD intitulée « Avortement, le pouvoir du médecin ». Alors attention, hein, certaines scènes décrites peuvent être difficiles à écouter. Et puis on a aussi une idée de film, Michel ?
Annie Colère de Blandine Lenoir qui est paru en 2022 avec Laure Calamy. C'est vraiment le récit d'une émancipation. Ça se passe dans les années 70. Annie, qui a vu mourir une de ses voisines d'un avortement clandestin, est enceinte et elle va voir son médecin qui la dirige vers le MLAC qui vient d'être créé. Son avortement se passe bien. Elle est réconfortée, elle est comprise, on lui explique tout, comment ça va se passer en détail. Du coup, elle devient militante du MLAC et devant le manque de médecins, elle apprend elle-même la méthode Carman et la pratique. Je signale aussi, il y a une thèse de Lucille Ruot sur le MLAC qui s'appelle « Le spéculum, la canule et le miroir ». C'est 800 pages, mais c'est très très intéressant sur l'histoire du MLAC.
Merci. Et du côté de Joël ?
Alors, deux livres et une BD. Aude Mermillot, que nous avions reçue et qui avait fait une BD qui s'appelle « Il fallait le dire » sur le ressenti d'une femme qui décide d'avorter. Un roman de Valentine Gobi, c'est celui qui s'appelle « Celui qui touche à mon corps, je le tue ». C'est les protagonistes d'un avortement à la fin du 19e, je pense. Il y a la faiseuse d'ange, la femme qui est incarcérée en attente de décapitation et son bourreau. Et un dernier livre, un essai de Françoise Vergès, « Le ventre des femmes » sur le scandale des femmes réunionnaises dont tu as parlé tout à l'heure, Natacha.
Eh bien, merci à vous pour ces références et merci à vous pour cette émission. Merci à Jimmy à la technique. Merci à vous aussi derrière votre poste, vos écouteurs au volant de votre voiture, dans votre cuisine ou à la salle de sport. Merci encore pour votre écoute toute cette saison. On achève cette année radiophonique avec la même détermination. On vous souhaite un bel été et on vous retrouvera à la rentrée avec nos pépites pour bien reprendre, fraîches, reposées, mais toujours aussi révoltées. À bientôt.
À bientôt.
Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B.